Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask, what goes what? Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Life de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct de ma cuisine à Rosemont, Montréal, c'est l'épisode numéro 75 de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Le podcast numéro 1 à être nominé absolument nulle part dans les soirées hommages. Pas les soirées hommages, les soirées de remise de prix pour les podcasts. Grosse semaine. Et là, je dois vous dire, là, je vais être honnête avec vous autres, là. Chronique Marie-Pierre Houle. Je me suis pas entraîné de la semaine. J'ai pas couru. Et je me suis même fait accroire que ça faisait partie de mon programme. Un relâchement d'une semaine pour revenir plus fort. Tu sais, on va se le dire, là. Je me compte des histoires à mon propre cerveau. Fait que j'ai rien fait. J'ai commandé toutes les nouveautés sur le menu du Pizza Hut. Puis là, ce que je faisais, c'est que je mettais, mettons, deux pointes où ce que j'avais un plan alimentaire qui disait poitrine de poulet, céleri. Hein? Puis là, je mangeais deux pointes en me disant, on va contrôler le dommage, tu sais, c'est juste deux pointes. Mais en tout cas, je ne vais pas aller sur la balance non plus. C'est inquiétant. Est-ce que ce repos sera salutaire pour revenir plus fort? Ça, on verra. Mais ouais, il va falloir que je m'y remette rapidement en espérant que c'est seulement un faux pas. Mais ma motivation dans mes souliers, j'ai pas d'énergie. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que je suis en burn-out, mais je ne suis pas en burn-out de boxe parce que j'ai rarement été aussi heureux un dimanche matin en me levant. Cette semaine, il y a eu des bons combats. Il y a eu Jessica Camara qui a affronté Heather Hardy. On la voyait vaincue à l'avance. Elle a remporté de façon sublime. Je vais vous en parler. Même chose pour Mathieu Germain. Pas mal, soit je dirais 75-80% des gens voyaient Mathieu battu par Steve Claguette, celui qu'on disait qu'il progressait, qu'on disait qu'il avait un cardio de feu. Mathieu avait perdu deux de ses trois derniers combats. Et là, dans le plus beau scénario qu'on pouvait écrire, victoire de Mathieu Germain. Il y avait un gala aussi hier soir au réseau des sports, Louis Neri qui affrontait Brandon Figueroa. Je vais vous en parler. Il y a quelque chose qui est tombé sous silence, mais que j'ai pris en note pour vous autres. Du côté de Camille Estéphane, veut présenter une nouvelle série Bière, Box et Barbecue, les 3B. Et en fouillant ses internets, j'ai trouvé la date et j'ai trouvé la finale de ce premier gala. Ça va toujours dépendre de la santé publique. J'ai pris ça en note. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Des nouvelles, des anecdotes, des nouveaux segments de notre bon ami. À chaque semaine, je trouve une nouvelle patente de lutte bizarre, là. J'ai trouvé des extraits de Dino Bravo qui s'adressent au peuple de Québec, vu que le gala d'hier était à Québec. Vous voyez, je suis toujours dans la thématique. Je vais vous parler de Jim Girard qui est allé aux soins palliatifs, mais qui a fait son arrivée aux soins palliatifs, qui est en fin de vie, et du rôle terriblement important qu'il a eu à jouer en boxe québécoise. Puis encore aujourd'hui, c'est un nom que je connaissais. Je savais qu'il y avait peut-être 250 galas amateurs de, dans son expérience. Je savais qu'il y avait boxé pro. Mais là, en fouillant, j'ai trouvé des petites affaires. On va faire un segment pour honorer le monsieur. Allez voir dans votre journal de Montréal, il y a un texte sur Martine Vallière-Bisson qui parle de payer pour boxer. Martine qui est présentement en train de ramasser de l'argent via Make a Champ. Martine m'a demandé de moins parler d'elle à chaque semaine pour pas que le public se désintéresse. Parce que si c'était juste de moi, je ferais un podcast, je parlerais de Martine pendant une heure. Je suis complètement sous le charme. Joshua Boadzi, pour ceux qui n'ont pas vu ça, je pense que c'était le KO de l'année. Là, ça n'a aucun bon sens. Des images à la limite qui sont dures à regarder, vous irez voir ça. Je vais parler de Christopher Lovejoy, un protégé de Don King qui a reçu une lettre d'avocat dans son vestiaire pour se faire dire « Si tu te bats, tu vas trouver que les avocats de Don King sont un peu violents comparés à tes nouveaux promoteurs allemands. » Quasiment des menaces. Fait qu'on va parler de ça. Sinon, inquiétez-vous pas. Ah oui, on reçoit le spectaculaire Frédéric Gagnon qui va venir nous parler de la boxe au Mexique aussi cette semaine. Donc, on est assez loadé. On a des affaires à compter. Ne vous inquiétez pas, ce sera un grand podcast cette semaine.
Parce qu'il y a des gens à Québec, commencé par un journaliste qui s'appelle Claude Cadorette, un gars de radio qui s'appelle Arthur, puis l'autre qui s'appelle Max Simoneau. Je vais dire une chose, j'ai le droit d'avoir des j'ai le droit d'être un partisan chaud du Canadien, pareil comme les gens de Québec sont partisans des Nordiques, malgré qu'ils n'ont jamais rien gagné encore dans la Ligue nationale.
Dino Bravo, c'était un Québécois qui a grandi dans Centre-Sud, puis il est allé lutter pour la WWF quand moi j'étais jeune. Puis ça me faisait rire, là, il était musclé, mais sa prise de finition, c'était « Viens dans mes bras que je t'écrase » ou « Il écrasait son adversaire ». Il avait les bras gros comme ma tête. Je vous le dis, Dino, ça a fini, il s'est fait assassiner dans son sofa. Ça, c'est un peu moins chic, là, mais il y a toute une histoire. Ils ont fait un reportage, en tout cas. Vous savez, moi j'aime beaucoup la lutte. J'aime tellement la lutte que des fois je mélange la lutte puis la boxe. Puis là, je viens tout mêler dans ma tête. Hier soir à Québec, on en a fait des analyses, on en a discuté pendant des mois. Mathieu Germain, un boxeur qui était à la croisée des chemins, a fait une performance, n'ayons pas peur des mots, bien en deçà des attentes contre Yves Ulysse, avait perdu contre Jésus Pérez, ce qu'on appelle une erreur de parcours où il s'est fait knocker. Et là, on entendait sur Claguette, ton cardio, il y a du cardio à l'infini, il s'est amélioré. Il a joué avec David Thiroux. Il était favori à 3 contre 1. Il y a des sites internet qui étaient rendus à 4 contre 1. On disait que Claguette était en montée, que Claguette commettait aucune erreur à l'entraînement, qu'il était acharné, qu'il reculait jamais, qu'il avait la force de frappe. Que Mathieu lançait des coups uniques, que Mathieu était cuit. Quelqu'un m'a dit, Mathieu a l'air déshydraté, Mathieu il a les yeux vides à peser. Tu sais, on a tout entendu les analyses. Et là, Mathieu Germain se pointe sur le ring, il nous peint un chef-d'œuvre, un combat parfait. Combat où j'avais 97-93 et là... Je ne veux pas détourner la performance incroyable de Mathieu en parlant que du juge, là. Mais Sylvain Leblanc, le même juge qui avait 97-93 au premier combat entre Steve Claguette et Yves Ulysse, doit se demander, et désolé M. Leblanc si vous êtes une bonne personne, mais je ne suis pas ici pour épargner, il doit se demander s'il est à la bonne place. Il doit se demander si c'est vraiment son métier. Quand tu es loin des deux autres juges, un moment donné, fais d'autres choses. Les gars se frappent sa marpoulette, passent proche de se blesser gravement. C'est sérieux la boxe. Puis là, toi, tu es là, puis tu remets des cartes un peu loufoques, un peu perdues. Et tu es tout seul en Amérique du Nord à avoir vu ça. T'sais, ça n'a aucun bon sens. On joue avec des carrières. Juge Leblanc, prenez votre retraite. Allez chercher une tasse de Folger à l'épicerie. Faites-vous un petit café. Relaxez, faites vos choses. Mais ne dérangez plus le monde de la boxe, s'il vous plaît. On vous remplacera par quelqu'un d'autre. Revenons sur la performance de Germain. Écoute, c'était parfait. Il est rentré, il connaissait les forces de Claguette, puis il a dit à Claguette, je vais mettre Claguette devant lui-même, mais avec un gars qui est bien meilleur en défensive, puis qui est bien plus précis à l'attaque. Tu sais, Claguette, il lançait, il touchait absolument à rien, alors que Mathieu, lui, lançait autant que lui, parce qu'il voulait pas s'en laisser imposer. Il lançait autant, mais avec le triple la précision. Mathieu, c'était souvent sur la cible. C'était souvent en pleine tronche de Claguette où la tête partait par en arrière. J'ai même vu que Claguette est obligé de reculer une fois parce qu'à un moment donné, il s'était fait faire mal. Il lançait au corps et c'était parfait. Puis j'ai aimé le travail dans le coin. Tu sais, Mike Moffa qui dit, Mathieu, je pense qu'il dit à Mike, on mène 6 à 1. Puis là, Moffa, il dit, tu sais, Mathieu, il dit, il n'y a rien de sûr, Matt. Il n'y a jamais rien de sûr avec les juges. Va me chercher 2 des 3 derniers ronds. Lui, il voit Mathieu gagner le 8. Il voit Mathieu gagner le 9. Puis il dit, hey, on va chercher le 10e aussi. Fait que, pour vrai, bravo Mathieu Germain. Bravo pour l'histoire derrière le gars qu'on avait tous vu battu à l'avance trop vite. Puis, j'ai allumé quelques minutes avant le combat quand Mathieu, il dit, moi, mon mode de vie, là, je l'aime. Boxer, j'aime encore ça. Faire ça à temps plein, j'aime ça. Ça me permet d'être avec ma famille après les entraînements. Je veux pas que ça arrête. Puis là, tu vois qu'il regarde la caméra. Lui, il était conscient de toute l'ampleur du combat puis des conséquences d'une défaite. Puis il s'en allait là avec une seule idée en tête, gagner. Puis il l'a fait. Puis à la boxe, il y a un proverbe qui dit « On est aussi bon que notre dernier combat. » Puis son dernier combat, c'est hier contre Claguette. Fait qu'on met l'histoire contre Ulysse de côté. Puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Mathieu... Moi, je déclare Mathieu Germain gagnant du tournoi parce que les autres veulent plus se battre. Fait que Mathieu Germain gagne le tournoi. Camille, donne-lui le 50 000 $ et trouvons-lui une chance de faire peut-être une dernière montée, là. Moi, je le verrais, tu sais, qu'on y trouve un adversaire qui lui ressemble un peu, qui n'est pas nécessairement un gars qui a 25 KO en 25 combats, puis qu'on aille chercher un adversaire prenable dans le top 15, puis qu'on donne à Mathieu une chance de faire une dernière montée au classement en sous-carte. En levée de rideau, le professeur Kenny Sherry a affronté Mathieu Duguay. Faut voir que le boxeur de Gaspésie a eu un certain succès avec sa main arrière, mais Kenny a vraiment contrôlé le combat avec un jab, quelques bonnes contre-attaques. J'avais Kenny Sherry, 39-37, bravo pour cette performance, digne d'un professeur d'école. Alexandre Gaumont, moi je vous l'avais dit, Michael Miller, c'était pas un client facile. C'est Vincent Morin, mon bon ami, qui me disait c'est comme affronter un ver de terre, il est visqueux, il bouge, il est capable de gagner du temps. Il a bien fait ça. Michael Miller, c'était pas un gars pour qu'on gèle. Il a bien boxé, il est allé chercher beaucoup d'expérience. Et là, victoire de Gaumont. Écoute, on n'a pas vu les marteaux. Mais on a vu un... Moi, j'ai aimé la variété des coups. J'ai aimé des uppercuts. J'ai aimé... Tu vois que offensivement, c'est un gars qui peut en faire beaucoup. Là, au premier, il a reçu des coups. Mais tu sais, on va mettre ça sur le dos de l'inexpérience de la boxe pro puis du premier round, le stress puis tout. Après ça, il a bien paru. Camille et Stéphane auraient avantage. Elle a laissé en sous-carte une dizaine de combats. Le laisser se développer, puis pas vouloir aller trop vite, tu t'en as un, là, un cogneur, il n'y a pas une vaste expérience chez les amateurs, il n'y a pas de combat international chez les amateurs. Tu prends Gaumont, tu laisses se battre 10-12 combats en sous-carte, force pas la main, il va aller chercher ses KO, puis on se revoit dans 16-18 mois, c'est ça que je ferais, puis surtout que lui, c'est 1800 billets d'un coup sec à Gatineau. Fait que tu sais, gardez les dons en shape, gardez-les heureux, faites-le travailler, puis vous défricherez la région de Gatineau avec, puis vous vendrez 1800 billets. La boxe féminine va bien. Et là, Bray Halling, je l'avais dit moi pendant le podcast, je l'avais dit un peu partout, elle n'avait pas un adversaire facile. Une fille de l'expérience, une fille qui venait de faire le camp d'entraînement complet de Jessica Camara, qui on a vu la performance de Camara qui a été exceptionnelle contre Heather Hardy. Donc, Bray Halling en a pris pour son rhume, s'est fait frapper. Moi, j'avais 39-37 pour Hernandez. Combat nul, et vous avez vu Camille et Stéphane qui a fait comme oh non, 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 si on n'est pas obligé, s'il n'y en aura pas de combat revanche. Faut comprendre que Halling, elle a juste 22 ans aussi, là, tu sais. C'est vrai qu'elle s'en est pris sa mâchoire un peu, puis elle avait l'air d'avoir perdu, là, elle s'en sort avec la victoire. Il n'y a pas de stress, et continuons de la laisser travailler. Clovis Drolet n'avait pas envie d'être payé à l'heure, il savait qu'il était payé. Du combat, fait que la fierté de l'ancienne Laurette a réglé ça assez vite. Un petit clin d'œil au deuxième round. Merci, bonsoir. Prochain gala le 21 mai en Russie. On se déplace après ça au Mexique le 4 juin. Et j'ouvre mon box-sac. Le 16 juillet prochain, Camille et Stéphane veulent lancer une nouvelle formule, bière, boxe et barbecue. On veut faire ça chaque année. Et j'avoue que moi, il m'a eu avec bière et barbecue parce que j'aime bien manger du barbecue et j'aime bien boire une petite bière. On parlerait du 16 juillet prochain au Canada, bien sûr, probablement au Stade Jarry même, tu sais. Et Mabonde Kalunga, celui qui a battu Clovis Drolet, se battra, là, j'ai vu le contrat, puis tout, contre Sadreddine Akhmedov. C'est probablement dans un combat qui serait la demi-finale pour le titre NABF. Donc, c'est intéressant. On garde l'ami Sadreddine actif, 16 juillet. Moi, s'il y a de la bière puis du barbecue, ça fait 75 podcasts que je vous fais gratuits, là. Je vous laisse tous me payer une bière. Je partirai qu'urgence santé après. Une couple de minutes. Fait que je vous laisse tous me payer une bière. C'est pas vrai que je vous divertis à tous les semaines puis qu'en plus, je vais payer ma bière. Fait que chaque, vous êtes combien à l'écoute? À peu près 200. Je veux au moins qu'une personne sur 10 me paye une bière. Ça fait 20. Ça fait que je verrai jamais le premier combat. Tu sais, mais c'est pas grave. Donc, nouvelle formule, bière, boxe et barbecue. On va suivre ça attentivement le 16 juillet prochain. On connaît maintenant un combat. Sinon, il y a le 21 mai en Russie, le 4 juin au Mexique. Il commence à faire bon d'être fan de boxe.
La semaine prochaine, le 11 juin, à cause de toutes ces... Toutes ces soirs-là, une tempête dans un verre d'eau. Ben moi, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que je commence? Je le finis. J'ai lancé un défi à tout le monde de Québec. Puis ceux qui veulent venir m'emmerder dans la ville de Québec, rentrez dans le vestiaire ou rentrez dans l'arène, vont vous montrer de quel bois je me chauffe, moi, un petit italien québécois. Puis je vais dire quelque chose, je le répète encore. Je suis d'une famille de gongans, je suis brûlé pour être un champion. Puis quand je rentre dans le forum, oui, j'ai chaud au cœur de voir 22 drapeaux. Mais quand je rentre dans le Colisée, ben ouais, je suis au cœur de voir toutes ces morveux-là rentrer dans l'arène ou dans le vestiaire du Colisée de Québec. Ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à me connaître. J'étais un gagnant, oubliez jamais ça.
Ouais, Dino Bravo n'avait pas envie de rire face aux gens de Québec. Chronique, groupe Yvon Michel. Du côté du groupe Yvon Michel, Alexis Barrière, en copromotion avec New Era, va affronter Drew Nolan, un gars qui nous vient des MMA, le 26 juin prochain au Sports Zone Derry, New Hampshire, USA. Avec, sous une promotion de Granite Chin, les bons amis de Vincent Morin. Et Yann Pellerin va défendre son titre contre un boxeur angolais nommé Cristiano Pedro, qui a des roches dans les mains. 2 victoires, 3 défaites et 1 nulle. Et le 11 juillet prochain, en exclusivité, j'ai même pas le droit de vous le dire, mais on se gâte. Mitch Louis-Charles va affronter Maceo Crowder, le demi-frère de Demetrius Boubou Andrade. Et j'annonce en exclusivité, je vais recevoir une lettre d'avocat, que Marie-Pierre Houle et Sébastien Bouchard devraient se joindre à lui et demeurer actifs. C'était la chronique pour le groupe Yvon Michel, qui a aussi reporté les combats de Oscar Rivas et Marie-Ève Dicker pour plus tard en 2021. Du côté de... On va se diriger du côté de Trois-Rivières. Notre bon ami, Jim Girard. Jim Girard, c'est quelqu'un que j'avais vu son nom à peu près partout dans ma vie. Je savais que c'est avec lui que Régis avait commencé, mais j'en savais pas nécessairement plus que ça. Mais j'ai découvert que c'était le père de la boxe en Mauricie, que si vous avez eu des grandes années de succès en boxe, c'est un peu Jim Girard. Jim Girard, il était entraîneur, juge, promoteur, boxeur, dirigeant de l'équipe du Québec de boxe amateur. Bref, il a passé sa vie en boxe. Il dit qu'il a passé 55 ans dans les rings de boxe. C'est lui qui était l'entraîneur de Yvon Michel. C'est lui qui s'est occupé de Bernard Barré, de le former. Puis il avait créé une école pour devenir promoteur de boxe, mais genre une formation. Puis c'est là que, quand Yvon boxait, il était pas nécessairement un grand boxeur amateur. C'est là que Jim Girard, il a dit « Ouais, mais tu sais, t'attendrais pas d'être coach, ça t'attendrais pas de suivre le métier de promoteur. Tu sais, tu demeures dans le monde de la boxe, mais on va faire d'autres choses. » Même chose avec Bernard Barré, c'est lui qui les a formés. Il a initié à la boxe Régis Lévesque, Régis Lévesque venait du monde de la lutte. Puis c'est Jim Girard qui l'a amené comme promoteur de boxe. C'est une légende vivante à Trois-Rivières. Il est né à Trois-Rivières, passé sa vie à Trois-Rivières. Il a eu des gyms à Trois-Rivières. Quand il était jeune, son père l'a amené au centre Landry. Il l'a donné à un curé qui s'appelait l'abbé Soucy. Puis il a dit, mais faites-les boxer parce que c'est un petit Chris, pour citer les mots de Jim Girard. Puis tenez-vous bien, là, c'est folklorique, mais il boxait chez les amateurs. Puis quand il manquait des combattants pros d'un gars-là dans les environs, Girard y allait, puis il changeait son nom. Il a boxé sous des noms d'Eddie Young, Jerry Clavette, Larry King, Jean Godin. Il s'inventait un personnage, puis il ramassait la bourse, puis il allait se battre pro en auto. Tu sais, c'était une autre époque là, où il n'y avait pas de caméra. Il dit qu'il a fait 8 combats professionnels. Il en a gagné 4, mais il en a fait seulement 2 sous le nom de Jim Girard. Les autres, il faisait sur des autres noms. La plus grosse bourse qu'il a eue, il dit qu'il faisait à peu près 100$, mais qu'il a fait une fois 500$. Il a été partenaire d'entraînement de Joey Durel. Puis c'est ça. Il a fait... Il s'est même battu au Nouveau-Brunswick sur une carte de Durel. Il n'y avait plus d'adversaire. Il est allé là-bas. Il a fait 500 rondes. Puis, tu sais, il ne s'est pas posé... trop de questions. Fait que Jim Girard, pendant 35 ans, il a eu son gym. Il a formé des champions canadiens. S'il n'y a rien qu'il n'a pas fait, tu sais. Il a formé Régis Lévesque. Il dit que il a travaillé pour Johnny Rougeau. Parce que, c'est ça, Régis Lévesque travaillait pour Johnny Rougeau. Il faisait de la boxe. Là, il l'a ramené. Il avait monté une école pour entraîneurs et promoteurs. Une affaire sérieuse. Il y avait des profs. Parce qu'Yvon Michel, lui, c'est ça. C'est sa formation. C'est professeur d'éducation physique. Fait qu'il avait amené Yvon. Il dit que Yvon, c'était un gars tough, courageux. Puis, sauf qu'il avait mangé une volée contre Gaston Bérubé à l'époque, qui était un super boxeur amateur. Puis là, il a pris Yvon comme assistant. Il dit Bernard aussi. Il dit que Bernard Barré, c'était un boxeur moyen. Il l'a pris. Puis il a montré comment monter des galas en plein air, tu sais, des galas amateurs sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve à Trois-Rivières. Ils faisaient des galas amateurs ensemble. Il a entraîné Patrice Lheureux. Fait que c'est ça. Fait que là, présentement, il est rentré au... est rentrée aux soins palliatifs à Trois-Rivières. Nathalie Lacombe, qui est une de ses anciennes boxeuses, qui est aussi une de mes collègues de travail à Poste Canada, qui est aussi la directrice de formation pour les entraîneurs et officiels à la FQBO, est allée le rencontrer. On voyait qu'elle était très émue. Puis elle marque du gym, il s'en est en maudit hein, dans sa chambre de soins palliatifs. Appelez ceux qui veulent y parler, ben, malheureusement pour une dernière fois. Vous savez c'est quoi les soins palliatifs? Pas besoin de faire de dessin. Fait que c'est ça. Jim Girard, on lui doit beaucoup. Des histoires incroyables. La boxe est bourrée d'histoires incroyables comme ça, puis de personnages incroyables que faut juste qu'on s'intéresse à eux, puis qu'on raconte l'histoire parce que, d'un, ils le méritent, puis de deux, ça a encore des incidences sur ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que merci pour tout, Jim Girard, puis on va s'arranger pour que tu sois jamais oublié.
J'essaie de te donner des bons conseils, puis ne m'écoute pas. Il essaie de dire des bons conseils, il ne m'écoute pas. Ce gars-là, il va aller loin dans la lutte. Il va aller au coin de la rue, puis le plus loin que tu vas aller, Carpentier, t'es mieux de lui parler à ce gars-là.
Scène internationale. Christopher Lovejoy, qui était un prospect de notre bon ami Don King, est allé il a trouvé un nouveau promoteur allemand. Lovejoy, il est 19-0, il a affronté 19 cannes de céleri hein, au Mexique. Vous ne me croyez pas? Allez voir sa fiche sur BoxRec. Il affrontait Manuel Char qui revenait 3 ans et demi de congé. Et Lovejoy reçoit une lettre d'avocat. C'est marqué Bonjour. C'était vraiment marqué de manière arrogante. Là. Trouvez-la sur Internet. C'est marqué Bonjour, ici Don King. Je ne sais pas quel genre de combat louche que tu t'en vas faire en Allemagne. La version pour la WBA que tu te bats vaut absolument rien. Je t'avertis, si tu montes sur le ring, tu es encore sous contrat avec Don King Promotion. Nos avocats s'occupent de toi. Puis c'est vraiment écrit de manière arrogante. C'est marqué, tu vas voir que ton nobody de promoteur allemand tiendra pas le coup longtemps comparé à nous. Pense-y avant de monter dans le ring. Lovejoy, qui est à son plus gros en carrière à 306 livres, il monte dans le ring, se fait geler au deuxième. Manuel Char, ça m'a fait très... Il essaie de faire une roue latérale pour célébrer par pied. Ça, c'est, je trouve toujours ça drôle, moi. Tu fais donc pas de roue latérale à 245 livres. Fait que c'est ce qui est arrivé en Allemagne, puis je sais pas, des affaires de même, je trouve ça drôle. Là. Les lettres d'avocat, Don King, qui doit être rendu à 125 ans, qui continue à menacer et empêcher des boxeurs de faire quelques dollars. T'sais, c'est maudit que ça me fait rire, c'est folklorique. En Angleterre, Leron Richard a battu Giovanni De Caroli par décision unanime. Leron Richard, c'est un gaucher qui a un style incroyable. Il est comme passé devant... Il est passé devant Eric Bazignan puis d'autres qui sont pas beaucoup battus. Allez voir ça, Leron Richard, un gaucher, 14-0, zéro force de frappe. Il a 3 KO en 15 combats, mais on croit beaucoup en lui en Angleterre. C'est un gars qui a une technique réellement à un autre niveau. Il y a déjà des victoires sur Tommy Langford puis Lennox Clark. Je vous le dis, il est pas loin le jour où Leron Richard va être associé au champion du monde. Il gagnera pas, mais il va avoir sa chance. Sur le même gala, Gamal Wafai a perdu contre Jason Cunningham. Il est allé au tapis un peu trop souvent. S'est fait ouvrir un œil. Tommy McCarthy, qui est un bon 200 livres local, a gagné au 6e. Dalton Smith, qui lui est à surveiller, a gagné au 6e contre Lee Appleyard. Et Joshua Boatzi affrontait le boxeur français Daniel Blenda Dos Santos. Dos Santos, il est 15-0, mais il n'avait jamais affronté personne. Il s'est fait geler, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça avait l'air d'une tentative de meurtre. Allez voir ça. Et en boxe... Il y avait un combat aussi de boxe féminine. Et là, je vous le dis. Là. C'est drôle, OK. Il y avait Elise Hopkins, qui est un gros prospect là-bas, à 154 livres. Ils ont confiance, ils veulent la partir. Elle est jeune, elle est blonde. Et là, elle affrontait... Et moi, ça me fait rire. Là, Borislava Goranova. Une Bulgare de 42 ans qui a l'air d'avoir 189 ans sur sa photo BoxRec. 11 victoires, 65 défaites. une victoire dans les 6 dernières années. Où c'est que vous êtes allé me trouver ça? Ça me fait rire. En Angleterre, là, la commission athlétique est assez lousse, ses adversaires. On se déplace sur RDS. Brandon Figueroa, qui était négligé, mais que plus le combat avançait, moins il était négligé, a battu Louis Nery, un violent coup au corps. Daniel Roman a gagné. Daniel Roman, toujours... Il vend chèrement sa peau. Spécial de 122 livres. Xavier Martinez a battu l'ancien aspirant mondial Juan Carlos Burgos. Et Gabrielle Fondora, la sœur de l'autre Fondora qui mesure 9 pieds, l'a remporté. C'est la sœur de Sébastien Fondura et c'est Marie-Ève Albert, la toute nouvelle chroniqueuse boxe féminine signée 5 ans sur Boxing Town de Québec, qui m'a annoncé que Gabrielle Fondura est devenue la première boxeuse signée par PBC. Eux autres, ils ont une confiance énorme, toute une équipe derrière elle. Andrew Satterfield a perdu contre Lubomir Bencic. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on a déjà connu Satterfield au Québec. Jessica Camara a fait une performance incroyable. On l'amenait pour perdre. On l'amenait pour se faire... pour faire bien paraître Ether Hardy, qui était 22-1, qui est une vedette d'MMA, qui revient. Une vedette d'MMA, une fille qui a un joli minois, qui vend beaucoup. On l'amenait pour bien paraître. Camara tombe en partant au premier round. Elle se relève, elle balaye le reste du combat. A fait une prestation parfaite et là c'est impressionnant. Camara perd la plus courte décision que tu peux perdre. 96-94, beaucoup la voyaient gagnante contre Mélissa Saint-Ville, une aspirante mondiale. Après ça, elle affronte l'ancienne championne du monde, la vedette américaine Ether Hardy, elle gagne toutes les rondes. Jessica Camara est en train de s'établir comme une incontournable en boxe féminine et contre quelqu'un qui va retourner en championnat du monde. Mélissa Saint-Ville a battu la Canadienne Oliva Giroula, qu'on a bien connue. Et c'était à peu près la carte. Là. Donc, ça fait un peu le tour des combats de la semaine. On se dirige au Mexique avec notre bon ami Frédéric Gagnon. Les plus grands chroniqueurs ont ce don d'arriver au bon moment avec la bonne chronique. La semaine passée, Saúl Alvarez, un Mexicain, se battait et le 4 juin, Eye of the Tiger s'en va au Mexique. Frédéric Gagnon, un expert en chronique, s'est dit qu'il fallait qu'il nous présente l'histoire de la boxe au Mexique. Probablement que ça va être plusieurs tomes, mais voici le tome 1 et voici Frédéric.
Hey, c'est Laurent, ça va bien?
Assez bien, oui.
Ouais, ben oui, j'avais pas le choix de parler de Mexico. Mexico avec tout ce qui se passe et surtout parce que c'est vraiment un pays de boxe. Là. Tous les pays que j'ai abordés jusqu'à maintenant, évidemment, il y avait de la boxe. Là, bon, on peut dire que le Mexique est vraiment dans le top mondial. Il y a eu plus de 200 champions du monde qui venaient du Mexique ou qui étaient originaires du Mexique. Plein de médaillés d'or et surtout beaucoup des combats les plus suivis de l'histoire était impliqué un boxeur mexicain. Alors, de ce côté-là, je n'avais pas le choix d'en parler, mais surtout, c'est vraiment, je pense, le pays où la boxe est le plus lié à l'identité mexicaine. Même des chercheurs là, qui ont étudié ça, les liens entre le nationalisme, la masculinité et la boxe. Il y a vraiment des gros liens dans l'histoire. Ça a vraiment accompagné le développement de l'État moderne mexicain. C'est vraiment assez fort. Et donc, comme tu dis, il va y avoir plusieurs tomes. Et en fait, probablement en trois. Premièrement, il y a une première âge d'or, c'est un peu ça que je vais parler dans les années 30. Il y a un deuxième âge d'or de la boxe de la fin des années 60 au début des années 80. Et finalement, je vais parler de Tijuana, qui est vraiment une pépinière de talent, puis qui a vraiment été aussi le symbole d'amener les jeunes de la rue, éviter les cartels.
Une belle place pour finir assassiné aussi un week-end.
Oui, c'est ça. Habituellement, c'était le cas. Mais là, il y a un peu d'espoir pour les jeunes boxeurs. Donc, on va tout de suite aller dans le sujet. Et dans les premières années, rapidement, comment la boxe a débuté? Eh bien, c'était comme pas mal dans tous les pays. C'était dans les ports du Golfe, donc des marins, etc., qui se battaient pour gagner de l'argent pour boire. C'était assez simple là, comme thématique. c'est assez cool aussi. Là, tu sais, deux rounds puis une bouteille de tequila. Imagine, c'était ça le deal.
C'est un peu ta vie, mais avec une autre façon d'aller chercher l'argent.
C'est ça. Et en fait aussi, l'autre chose qui a amené ça, c'est à la fin du 19e siècle, la boxe était interdite dans certains États américains de l'Est. Donc, la boxe est partie vers l'Ouest américain. Là, évidemment, c'était l'époque, la fin du 19e, un peu l'époque des cowboys. Il y avait pas de règles dans l'Ouest américain et c'est allé jusqu'au Mexique, à la frontière. Il y avait même des combats dans le désert d'un côté du Rio Grande. Et donc, là, c'est là que la boxe a commencé à se développer. Ça s'est développé aussi avec la Révolution mexicaine. De 1910 à peu près 1923, il y a eu la Révolution mexicaine qui a suivi les années au pouvoir de Porfirio Diaz, qui est resté là 30 ans et qui truquait les élections. Donc là, il y a une grosse révolution, entre autres avec Emiliano Zapata, Pancho Villa. Et Pancho Villa, en 1914, pour financer son trésor de guerre, bien, il organise un combat de championnat mondial avec Jack Johnson, le grand champion américain, le premier grand champion afro-américain dont on va parler dans une prochaine chronique, parce qu'il y a une histoire assez remarquable. D'ailleurs, quand il a combattu à ce moment-là, il était en exil des États-Unis parce qu'il avait été condamné là pour des motifs là, racistes. Il avait été condamné par un tribunal américain, donc il était sauvé en Amérique du Sud. Il a vécu quelques années là.
D'ailleurs, Frédéric, la seule bonne chose que... Il y en a qui disent que la seule bonne chose que Donald Trump a fait dans son mandat, ça a été de gracier les péchés, et je le mets entre guillemets, de Jack Johnson.
Il l'a gracié, ouais, je trouve ça bien. Je suis content d'apprendre ça. Je pense que je vais le mettre dans les plus. Je vais le mettre dans ça va être le plus de ma colonne d'appréciation. C'est bon, non? Mais je suis content de l'apprendre vraiment. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu le début de la boxe. Et là, finalement, c'est les années 30, donc l'âge d'or de la première période d'âge d'or de la boxe mexicaine. Il y a la commission de boxe qui a été créée. Un premier boxeur professionnel, Miguel Angel Febles, qui se battait notamment là, à peu près tous les soirs dans une ville différente. C'était vraiment des horaires un peu intenses, là. J'imagine que c'était la seule façon de ramasser des bourses décentes.
Ça, c'est ta vingtaine, Frédéric?
Oui, c'est ça. Il se battait pas, il buvait. Juste corriger ton appréciation. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui arrive en même temps que ça se développe, la boxe au Mexique? Bien, il y a aussi la première vague d'immigration vers les États-Unis. Après, comme j'ai dit, il y a eu la révolution là, de 1910 à 1923, donc toujours des périodes troubles. Donc, il y a beaucoup de boxeurs qui s'en vont dans la région de la Californie, plus précisément à Los Angeles. Puis c'est là que Los Angeles va devenir une plaque tournante de la boxe aux États-Unis, entre autres parce que les Mexicains allaient là et pour être des partners de sparring à bas prix. Donc, c'était vraiment la façon qu'ils avaient trouvé. Là, t'es payé pas cher, ils faisaient quelques rounds, puis ça permettait de pratiquer tes boxeurs, mais ils ont commencé à apprendre de plus en plus de techniques et ils ont fini par retourner au Mexique. Là, puis là, on va se diriger vers la deuxième âge d'or là, avec tous les boxeurs qui revenaient de Californie, puis surtout on voulait éviter que les promoteurs américains s'enrichissent sur le dos des Mexicains. Donc, à ce moment-là, les Mexicains vont reprendre le contrôle. Par contre, l'autre événement là, dont je veux te parler, c'est dans tout cet âge d'or-là. Puis là, tantôt, je disais, ça a vraiment qualifié l'identité mexicaine. Bien, c'est qu'il y a un boxeur qui va vraiment être l'archétype du boxeur mexicain et c'est Rodolfo Baby Chango Casanova. C'était vraiment son vrai nom de famille et c'était tout un charmeur. C'était vraiment un boxeur charismatique. C'était vraiment l'image du gars. C'est vraiment le classique. Il va avoir une grande montée, une grande descente. C'est ça vraiment qui va qualifier pendant longtemps les boxeurs mexicains. Et lui, c'est un gars donc très pauvre. Il est parti de rien. À 17 ans, il a commencé pro. Extrêmement puissant, imposant. Il va même aller faire un combat de championnat du monde à l'âge de 19 ans à Montréal, au Forum de Montréal en 1934. Et c'est là, malheureusement, que ça va être aussi le début de sa descente aux enfers parce que il est arrivé à cette époque-là, je ne sais pas si c'était la mode, là, mais il est arrivé à peu près 2-3 semaines avant le combat à Montréal. Il tenait son camp d'entraînement là-bas et il était super discipliné, mais le matin du combat, son équipe le cherchait et ils l'ont trouvé dans les bars de la métropole. Il était dans une tournée de boissons et il a perdu son combat. Il a perdu sa chance de devenir champion du monde et ça n'a plus jamais été la même chose pour lui après. C'est vraiment en fait des hauts et des bas. Il a continué à gagner. Il a même eu un autre championnat du monde quelques années plus tard, mais qu'il a perdu encore. Et là, c'est vraiment, on voyait vraiment les hauts et les bas de la boxe. D'un côté, tu avais donc lui qui était parti de rien, qui était extrêmement puissant, qui était extrêmement charismatique. Donc, des traits aussi très charmants, donc des traits de la masculinité, les traits plus doux, les traits plus forts. Il y a même eu un film sur lui, Campeón sin Corona, donc le champion sans couronne, qui a parlé de toute sa vie et qui a vraiment influencé la construction de la boxe mexicaine. Mais ça, ça l'a beaucoup atteint parce que c'est un film pour lequel il n'a jamais été payé. On l'a fait un peu dans son dos, puis ça l'a vraiment amené à, malheureusement, à de mauvais choix. Il a tout dépensé. Puis il a combattu les plus grands, là, entre autres son champion, combat de championnat à Montréal, c'était contre Sixto Escobar, plusieurs combats contre Joe Condé, Henry Armstrong, Freddie Miller, plein de gros noms de l'époque, mais il a tout gaspillé son argent et il est mort dans l'oubli. Malheureusement, il est mort dans la boisson, seul, itinérant.
Il va falloir que je surveille ça. Là. Pourquoi le Portoricain Sixto Escobar a affronté le Mexicain Rodolfo Casanova un mardi soir au Forum de Montréal?
C'est ça, quelque c'est... chose, hein?
Des drôles ouais, d'idées. Moi, moi aussi, il y avait des drôles d'idées à l'époque. Hein?
Oui, tout à fait. Ben, c'est aussi c'était intéressant de voir. C'est un article que j'ai trouvé là-dessus qui parlait de ce combat de championnat du monde-là. Il disait, c'est ça, à quel point que la boxe était populaire dans les années 30 à Montréal. Puis là, dans l'article, on rappelait qu'aujourd'hui, on parle surtout de hockey. On est revenu à ce sujet-là, mais c'était ça, c'est quelque chose de voir ça. C'était des gros combats, puis c'était ça. Ça. Pendant 3 semaines, les gars, ils étaient à Montréal, ils s'entraînaient, il y avait une couverture médiatique. Donc, voilà, fait que... Et c'est ça, fait que lui, ça a vraiment représenté cette première âge d'or-là, autant qu'il était extrêmement fort. Il a été toujours super populaire, parce que c'est ça, il était charismatique. Aussi, il a appuyé le parti au pouvoir. Là, après la Révolution, il y a le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, qui a pris le pouvoir de 1929 à 2000. Fait que c'est vraiment pendant quand même, c'était une démocratie, mais pendant 80 ans, c'était le même parti. Et les boxeurs, encore là, ils s'alliaient toujours dans les publicités, dans la promotion des présidents au pouvoir. Ils étaient toujours avec eux. Donc, ça a permis à Chango Casanova de toujours rester admiré et respecté. Mais malheureusement, sa vie a été un peu une suite de troubles. Et on dit donc que ça l'a, pendant ces années-là, ça a beaucoup qualifié le type de boxe était super agressif, beaucoup porté sur l'attaque et ça a beaucoup amené là, le fait que les boxeurs mexicains étaient aussi très spectaculaires. Là. C'était beaucoup basé sur le spectacle, attirer les foules. Là. D'ailleurs, ce sont, on le verra dans d'autres segments, mais il y a des gros, gros combats qui ont attiré beaucoup de monde au Mexique. Et voilà, fait que c'est un peu la première âge d'or avec malheureusement une fin tragique pour Baby Casanova, mais il a vraiment aidé à créer ce sentiment de fierté-là chez les Mexicains lié à la boxe.
Bon, mais merci Frédéric. C'était le Mexique 1, 2, 3.
Yes, yes. On se revoit pour les prochaines parties bientôt avec la deuxième d'âge d'or, entre autres, avec les grands boxeurs que tout le monde connaît aujourd'hui.
Oui, et peut-être en soirée dans un parc.
Peut-être en marche rapide.
À la prochaine.
Salut Laurent.
Oh mon Dieu!
J'ai extrait le rire de Marie-Pierre Houle et quand je file pas, je réécoute le rire de Marie-Pierre pour remonter le moral, littéralement. Alors, c'est la fin de ton épisode numéro 75, épisode festif, n'ayons pas peur des mots. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas parlé des rumeurs de Oscar de la Hoya contre Georges St-Pierre. Pourquoi? Parce que j'en avais simplement pas envie. Et que... Bon, j'en ai pas envie. Caleb Plante, lui, il demande 15 millions, il en a 7. Joshua Fury, annoncé pour la 134e fois en Arabie Saoudite. Félix Verdejo... annonce qu'il est non coupable. Big Joe Saunders, il y a des fractures, c'est effrayant. Jake Paul a fait envoler une casquette. Vous voyez, ça, c'est des choses que je parle un peu moins. Là. Fait que merci d'avoir été là. Je travaille sur un projet et là, je vais vous surprendre. J'ai une idée de faire des grands documentaires,
d'aller chercher les cinéastes, mais seulement en 2037. Fait que j'aurai le temps de vous en reparler. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Je retourne à mes jeux vidéo.